Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Hello, hello, everybody, tout le monde. C'est déjà mardi, c'est bientôt le week-end. C'est Koh-Lanta ce soir. Vous êtes prêts? On est en train de régler parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un cadre 2 dans le cadre. on a qu'un seul micro, comme vous le voyez. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si on doit
se rapprocher du micro
ou si on s'éloigne.
Ah, ben tu vois, c'est la limite. Ouais. On peut peut-être pousser un petit peu encore l'écran vert. Alors, désolé pour les petits réglages, du coup, mais c'est vrai que la dernière fois, si vous vous souvenez, moi, il y a deux semaines, j'avais fait ça avec Grégoire, on était à deux, et là aussi, on avait un peu galéré avec le cadre. Bon, voilà, on aura des parties du corps coupées, mais c'est pas trop grave. Ouais. Bon, j'espère que vous allez tous bien.
De quoi on va parler aujourd'hui?
De plein de choses. Ce que j'expliquais à Manu, c'est que, comme du coup, c'est un peu mes premiers là, j'avais préparé plein de sujets à vous parler. Alors, je vais pas vous faire la liste non plus de tous les sujets et tous les articles dont j'ai envie de vous parler. Mais déjà aussi, je voulais savoir s'il y avait des sujets, vous, qui vous intéressaient. Est-ce qu'il y a des trucs dont vous avez envie de parler aujourd'hui? Je sais pas si vous avez vu des sujets. Des gros dossiers un petit peu justement tech récemment. On va commencer du coup à parler un petit peu des sujets que nous on a traités du coup hier notamment. On voulait parler de Utip notamment, je sais pas si vous êtes concernés aussi. Alors, rendu 3D de la Tab S9 qui vient de leak. Ah ouais, ça j'ai pas vu du tout.
Ouais, c'est Onleaks qui a lâché ça. On peut aller sur twitter.com/Onleaks.
D'ailleurs, je me suis rendu compte que le jeu Onleaks est français.
Oui.
Ok.
Et donc, il y a la nouvelle Tab S9 Plus.
Alors, j'ai zoomé un petit peu parce que c'est vrai que c'est
un peu tu peux cliquer sur le lien et t'auras des visuels.
Sur le lien direct?
Ouais.
Ah, d'accord, c'est qu'il l'a mis aussi sur un site.
Okay. C'est ça.
Ok, ok.
En fait, c'est son métier d'être leaker. Et il vend ses services. Donc, les sites, lui, achètent ses leaks.
Ok. Oui, parce que du coup, c'est vrai que j'avais vu un peu sur le système de mode de financement, il y avait aussi des systèmes de Twitter fermés. J'avais vu, notamment, je crois que c'est Evan Blass.
Ouais, Evilix.
Ouais.
Mais Evilix a essayé plusieurs modèles économiques. Il a fait ça, même chose que Onyx. Il a fait un système, un moment où il était sur une plateforme. En fait, il fallait payer pour accéder à ses leaks. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je me demande s'il a pas eu un truc style Patreon, Utip aussi.
Ouais, d'accord. Ça marcherait bien, oui.
Utip un peu moins. Mais...
Ah, pas Utip maintenant, non, c'est sûr. Non, mais je veux dire, en tout cas, ouais, ça marche bien pour plein de vidéastes, d'influenceurs et tout. Donc,
mais du coup, hier, on a vu les limites de ce modèle économique.
Bah oui, ouais. Ouais, c'est assez intéressant, ça. C'est vrai que moi, ce qui m'a le plus étonné quand même, c'est que, en soi, c'est le temps entre.
Non, je voulais dire que peut-être on parlera de Utip, on reviendra sur Utip après, vu que de toute façon il y a l'actu.
Ah ouais, ok.
On peut regarder un petit peu la Tab S9 Plus, vu qu'elle vient juste de leak, pour voir ce qu'il y a.
Ah, okay. Ah, mais il y a toutes les specs du coup, ça, j'avais pas suivi ça du coup.
Alors, okay. En fait, c'est surtout la partie design de la tablette. Tu vois, là, tu vois les connecteurs, tu vois la taille de.
Ouais, je regardais un peu, c'est pour ça.
Parce qu'en fait, l'Onyx, ce qu'il arrive à récupérer, c'est ce qu'on appelle les rendus CAD. C'est des rendus très précis du design d'un appareil que les constructeurs envoient aux accessoiristes. En mode, bah voilà, ça c'est les dimensions de absolument tout sur la tablette.
Ouais.
Genre là où il y a les appareils photo, là où il y a le port USB, les haut-parleurs, etc. Si vous voulez faire une coque, basez-vous là-dessus et vous saurez où faire les perforations dans vos coques, etc. Donc lui, il a des informateurs qui lui permettent de récupérer ces trucs-là. Et derrière, bah, il a des designers qui travaillent avec lui et qui lui permettent de refaire l'appareil en 3D.
Ouais, d'accord, ok. Oui. Et j'avais vu que ça avait fuité pour pas mal de... Enfin, Google aussi, je me souviens qu'il avait beaucoup fuité. Ouais. Enfin bon, Google qui fuite beaucoup dans tous les cas, mais...
toujours.
Evan, il ne fait pas payer, il est juste en privé, dit Aximilitech.
Maintenant, ouais.
Ouais, du coup, il est juste en privé maintenant.
Ouais.
Ok, ouais, d'accord. Très bien, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi la line-up des tablettes Samsung. Je m'en rends pas compte du coup si c'est plutôt une révolution en termes de design ou si ça suit à peu près ce qui avait déjà été fait avant.
Vraiment, c'est la même que l'année dernière.
Ouais, d'accord.
Alors, je sais plus s'il y avait deux objectifs déjà l'année dernière. J'ai un doute. Je dois avouer que la partie appareil photo sur les tablettes, c'est de toute façon pas ce qui nous intéresse le plus en général quand,
ouais,
quand on a une tablette.
S8 Plus, ouais, c'est ça.
Voilà, tab S8 Plus du coup.
Ah, bah oui, c'est vrai qu'il y a les anciens, ouais. Oui, t'as vu ce que j'ai fait, oui.
Oui, j'ai vu.
J'ai essayé de cliquer sur le live pour ceux qui l'ont pas vu. Alors, on s'habitue comme on peut, hein. Je connais pas assez OBS pour l'instant. Ouais, donc oui, ça reste assez similaire.
Ouais, c'est vraiment la même chose.
Oui, non, et... donc t'avais raison, je crois qu'il y a, il y a qu'un seul. Non, il y en a deux. Ok, autant pour moi. Oui, ça reste assez proche. Avec, j'imagine, du coup, ça qui est toujours le slot un petit peu là. Alors, on voit pas forcément, mais qui est toujours utilisé. Du slot pour mettre le stylet, pour recharger,
ouais,
le stylet.
C'est magnétique et tu, ouais, mets le stylet dessus. Qu'est-ce que ça dit dans le chat sur cette tablette un peu ? Elven, il fait pas payer. C'est surtout le prix en ce moment. Oui, c'est cher. Carrément, Jinx, t'as raison. Pour des tablettes moins bonnes et moins fluides que celles d'Apple. Moins fluide, je suis pas d'accord, parce que maintenant elles sont quand même très fluides. Moins bonnes, en fait, là pour le coup c'est pas Samsung qui est à blâmer, c'est plus Android, je pense. Et le fait que il n'y a pas eu un engouement pour les tablettes Android autant qu'il y a eu pour l'iPad, ce qui fait que tout l'écosystème qu'il y a derrière manque encore de killer app, de bonne gestion des applications. Là où sur Apple, l'iPad il est extraordinaire, hein, de toute façon ça fait longtemps, et en plus Apple là avec iPadOS, quand ils se sont séparés d'iOS, il y a eu quand même une petite révolution pour les tablettes, et ça rend vraiment le truc ultra complet et vraiment pensé pour les tablettes. Effectivement, là je vois en plus à cause de l'écosystème,
ouais,
l'écosystème Apple, le fait d'avoir le Sidecar, le fait de pouvoir utiliser ton iPad comme deuxième écran de ton Mac, ça c'est pareil, c'est ultra simple, c'est super intuitif, tu déplaces juste ta souris et pouf, ça fonctionne.
Ça fait un argument de vente en plus, parce que du coup tu dis que si tu l'achètes aussi pour avoir un deuxième écran d'appoint si t'as besoin à un moment. Le jour, je pense, où ça sera le cas pour Android, ça sera tout de suite peut-être plus rentable, entre guillemets, d'investir dans une tablette Android. Alors, même si elle vieillit plus vite, même si elle est moins, la moindre mise à jour de sécurité,
C'est possible aujourd'hui sur Android, mais c'est un peu plus.
Ouais, j'imagine.
T'es obligé de passer par des logiciels tiers.
Et de faire confiance à ces logiciels tiers aussi, j'imagine. D'accepter, de leur donner beaucoup d'autorisation. Samsung, ils bossent. Mais c'est vrai qu'après, oui, peut-être que le côté aussi des écosystèmes qui se développent de plus en plus, qui s'éloignent de plus en plus aussi d'Android, et du coup, qui gagnent sur un côté peut-être, justement, côté écosystème où tout est ensemble et fonctionne ensemble. Samsung, ils ont tellement proposé de systèmes différents en termes de partage, même entre eux, ou de suivi, même de, c'était quoi, c'était les copier-coller, de reprendre l'activité que t'avais d'un appareil à l'autre Samsung. Ouais. Je me dis peut-être que ça peut aider. Après, j'ai pas été assez dans l'écosystème Samsung, peut-être on me rend compte à quel point c'est mature ou pas.
Il y a à la fois ça et à la fois aussi Microsoft qui pousse dans cette direction avec Windows. Notamment l'application mobile phone, mon mobile, comment elle s'appelle,
mon téléphone,
ouais, qui devient de plus en plus complète et qui permet de faire de plus en plus de choses directement depuis Windows sur son téléphone. Là il y a aussi Nearby Share de Google qui permet d'utiliser ton appareil Android pour envoyer un fichier sur Windows facilement.
J'ai toujours pas réussi à faire marcher d'ailleurs. Moi j'ai essayé plusieurs fois, une fois que je l'ai vu sorti, j'ai toujours pas réussi. Mais ouais.
On t'entend pas bien, t'es loin.
Pardon.
Je vais me rapprocher un peu, désolé. Hop, alors on va se mettre comme ça et je pense que ça ira mieux. Dis-moi Snake si on m'entend un peu mieux et on va faire attention sur la suite.
Mais c'est un peu trop allongé, désolé.
Ouais, on était au café du coin là. On va y faire, ça marche bien en vrai, après c'est en bêta. J'ai pas essayé sur Windows, j'ai essayé entre deux appareils Android, ça marche super bien. J'ai pas essayé sur PC encore avec Windows. Il faut que j'essaye ça. Mais c'est trop bien parce qu'en plus la semaine dernière, je faisais un test. Enfin, je devais envoyer une photo en tout cas ou un fichier de mon téléphone à mon ordinateur pour un article. Et j'étais là en mode ah putain, je vais m'envoyer par mail ou par Slack. Comment je fais c'est... À chaque fois, je me pose la question. Ouais. À chaque fois, ça me fait chier. Et là, le fait d'avoir une solution enfin officielle en mode tu cliques, c'est natif et tu m'envoies. C'est trop cool.
Ah, c'est ça. Après, oui, peut-être que du coup, c'est la première fois où ça va être compliqué. Enfin, si je prends mon exemple, quoi. J'imagine qu'après, une fois que c'est setup, tu retrouves le côté, la solution de facilité, quoi. Non, mais c'est cool. Alors, Bachir n'est pas natif. C'est pas natif?
C'est natif à Android, c'est peut-être pas natif à Windows, je sais pas comment il fonctionne.
Ils l'ont intégré dedans, mais peut-être que du coup, ça reste, je sais pas du tout.
Les PC, téléphone Samsung. Oui, en plus, effectivement, Axie Minitech, Samsung a son écosystème, un peu comme Huawei l'avait à une époque. Alors Huawei, c'était marrant parce que justement, ils ont essayé de faire ça entre leurs téléphones et leurs ordinateurs.
Mmh.
Donc, il y avait la possibilité de s'envoyer un fichier. En fait, tu prenais ton téléphone, tu te mettais par exemple sur la galerie Huawei, tu regardais une photo, posais sur ton ordinateur et ça envoyait la photo à ton ordinateur.
Ah, automatiquement.
Automatiquement.
Ok.
C'était en NFC.
Ah oui, d'accord, ouais. NFC, ouais.
Et ça envoyait le truc. Le truc, c'est qu'en fait, la puce NFC n'était pas dans l'ordinateur. C'est une étiquette qui était collée sur le capot de l'ordinateur.
Oh non.
Et il y en a plein qui l'ont enlevé mode, comme quand t'enlèves la petite étiquette Intel Inside.
Bah, je suis premier à le faire.
Voilà. Il y a toujours ça sur Honor, c'est Magic Share de mémoire. Je sais pas s'ils l'utilisent encore.
Ah ouais?
Mais en tout cas, voilà. Et c'était une petite étiquette et tout le monde l'a enlevé. Et du coup, t'es là, tu poses ton téléphone, ça pas, je comprends pas.
Tu l'as déjà acheté depuis deux semaines.
Ils ont vendu ça. Et...
Honor Share.
Device Clone.
Ah, on a parlé de collaborer.
Ça ressemble. Donc là, ça ressemble un peu plus à ce que fait Windows, justement, j'ai l'impression, avec mon téléphone.
J'ai l'impression, effectivement. Avec la même application qui permet d'ailleurs aussi, oui, de dupliquer, du coup, le téléphone. Ok, très bien. Alors même ça, mon téléphone, moi j'ai essayé de le mettre plein de fois en me disant que je voulais retrouver un peu ce que je voyais chez des potes qui avaient justement Mac et avec leur iPhone.
Ouais.
J'ai jamais réussi à avoir la même situation, j'ai jamais réussi à faire fonctionner... Alors peut-être encore une fois, c'est un énième truc que j'ai pas réussi à faire fonctionner. Peut-être qu'il y a un problème matériel avec un de mes deux appareils, hein, mais en tout cas, j'ai vraiment essayé plusieurs fois à chaque fois et j'y voyais et pas forcément l'intérêt quand on peut utiliser par exemple, tu vois, pour le côté SMS et tout, etc. Utiliser l'application message de Google que tu peux et donc au-delà d'utiliser ça pour peut-être accéder à certains fichiers, mais quand t'es habitué à faire par exemple ça avec Google Drive ou des choses comme ça, c'est pas forcément plus rapide. Ça peut être plus pratique d'avoir tout au même endroit, mais en soi, ouvrir Google Drive est pas forcément plus lent. Et à part peut-être pour passer les appels où il y a maintenant cette option-là. Et ça, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc.
Après, la différence entre l'écosystème iOS et de passer par Google Drive, c'est que iOS, Apple, je veux dire, iOS et Mac, c'est que justement sur iOS et Mac, c'est transparent.
Ouais.
T'as pas à faire l'étape d'envoyer ton fichier sur Google Drive. C'est genre juste, t'as ton truc sur ton téléphone, tu le récupères sur ton PC.
Ouais, c'est naturel, quoi.
Donc ça fait une friction en moins. Mobile connecté, c'est cool pour les notifications sur ton PC. Ouais, moi j'utilise tous les jours. C'est bien mon mobile maintenant.
Ah oui, ce qu'il disait, c'est que ça change tous les 3 mois, on dirait.
C'était mon téléphone, maintenant c'est mon mobile.
J'ai reçu le Honor Magic 14 2022, il y a une étiquette Magic.
Bah voilà, l'enlève surtout pas avec son étiquette.
Et ne fais pas chauffer ton PC pour que ça passe pas fond de la colle non plus, j'imagine.
Ils sont indécis. Mais ça c'est Windows, hein, enfin, c'est Microsoft. C'est normal.
Ok, très bien.
Alors sinon, qu'est-ce qu'on a comme actu aujourd'hui? Dis-nous tout.
Moi j'ai bien envie de vous parler quand même de Utip en vrai. C'est assez récent et ça m'intéresserait notamment en fait d'avoir aussi vos retours. Alors, je sais pas si tout le monde l'a vu passer. On va résumer un peu, si vous voulez, l'actu rapidement. Grosso modo, du coup, c'est que hier, c'est Kassim, du coup, qui a sorti l'information. Utip, donc la plateforme qui permettait de soutenir les créateurs en leur fournissant soit en faisant un virement unique ou soit un virement récurrent, mais de centraliser tous ces virements-là, un peu comme ce que Tipeee faisait avant. Mais Utip avait gagné beaucoup
C'est vrai. Tipeee est tombé dans les méandres.
Tombé en disgrâce, quoi. Mais oui, parce que du coup, on met aussi en contexte, et je crois que c'était en novembre 2021, un truc comme ça. Fin 2021, je crois, un truc comme ça. Où il y avait eu des histoires de soutien de documentaires complotistes ou des choses comme ça sur Tipeee. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de créateurs qui s'étaient éloignés de Tipeee en se disant, bon, on n'est pas forcément d'accord avec ça, on veut trouver une solution plus éthique. Et Utip était vendu comme une solution plus éthique, française aussi, etc. Le problème, bah, vous le voyez bien, c'est que Utip, du coup, ferme ses portes même d'ailleurs aujourd'hui. Le problème, c'est que vous voyez
c'est bien
que
annoncé hier.
L'annonce date du 3 avril 2023. En tout cas, nous, on l'a mis au date de, enfin, en tout cas, on l'a sorti le 3 avril 2023, mais même les créateurs l'ont appris à peu près aussi à cette date-là.
Je crois qu'ils l'ont appris après nous, justement. Ouais. Parce que, en fait, c'est Kassim qui a fait un super boulot journalistique. En fait, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte par hasard. Nous demandez pas pourquoi, mais il s'est retrouvé sur le registre société.com de Utip dimanche. Voilà. Chacun fait son dimanche.
Ah, c'est dimanche.
Voilà. C'est le jour du Seigneur. Pour d'autres, c'est le jour de société.com. Et il s'est rendu compte que l'entreprise était placée en liquidation judiciaire. Donc, ce qui est le premier truc qu'il a fait lundi matin, c'est d'appeler Utip. Pour savoir un petit peu ce qui se passait. Donc, il a eu Stanislas Mako, le fondateur et patron de la plateforme, au téléphone, et il a pu avoir ces informations.
Et je vois Maxime Littek qui disait du coup que c'était au départ un soutien gratuit à l'origine. C'est vrai qu'il y avait un système où c'était l'alternative où il fallait regarder des pubs pour donner 50 centimes, je sais plus. C'est très chiant à faire. Je l'avais fait un peu, mais c'était très chiant à faire. Mais c'est vrai que c'était une solution.
C'est pas mal, je trouve, justement, de pouvoir soutenir des créateurs et des créatrices de contenu sans avoir de revenus pour pouvoir le faire.
Ouais.
De juste te dire moi tout ce que j'ai à proposer c'est du temps. Je le mets à partie.
Je rentabilise mon temps.
Et, je me rappelle, alors les vieux s'en rappelleront. Toi je pense que t'as pas dû connaître ça. À une époque, moi j'avais des trucs où en fait c'était une barre latérale sur ton navigateur. Cette barre latérale t'affichait des pubs constamment.
Ah ouais, mais à la fameuse époque où t'avais un millier de barres latérales.
Ouais. Exactement. Et du coup, moi je gardais ma barre latérale toute la journée et ça me rapportait quelques centimes comme ça.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Voilà, et ça permettait de gagner un peu d'argent comme ça. Netscape, à l'époque, j'étais sur Netscape. Je sais plus si c'était. Je crois pas que c'était Netscape en soi, mais j'étais sur Netscape. Et évidemment, c'était à l'époque où Netscape c'était waouh, le navigateur qu'il fallait absolument avoir. C'était un peu le Google Chrome de l'époque.
Mais je me rappelle qu'il y avait des systèmes aussi comme ça, parce que je me rappelle que quand j'avais vraiment pas d'argent et que je pouvais pas taper de l'argent à mes parents ou des choses comme ça, et qu'il y avait quelques trucs que je voulais acheter, et à l'époque c'était genre Minecraft en bêta, je crois, et il y avait des systèmes entre guillemets pour gagner de l'argent via des publicités, et je me souviens que j'avais fait un truc, c'était comme ça, c'était 10 centimes par 10 centimes par 10 centimes. À l'époque Minecraft ça coûtait genre 5 euros, je crois, et j'avais fini au bout de 2 mois, à 3 mois, de réussir à payer ça comme ça. Mais alors que ça existe plus, j'ai plus l'impression qu'il y a des plateformes similaires maintenant.
Alors comme ça,
de rentabilisation de...
Doit certainement y en avoir. Dans 20 ans, ils diront qu'ils ont regardé YouTube avec de la pub. Oui, effectivement, c'est Brave qui fait ça avec de la crypto-monnaie.
Ah ouais.
Mais eux, c'est différent, c'est juste à l'utilisation. Il n'y a pas de pub particulière. Il y a, dans un autre style, il y a Steam. Ça aussi, en fait, à chaque fois que tu joues à un jeu, tu gagnes des petites cartes de jeu et tu peux les vendre sur une plateforme d'enchères.
Ok, je savais pas du tout.
Parce qu'une fois que tu as toute la collection de cartes d'un jeu, mais tu peux en avoir... En fait, en jouant à un jeu, tu peux avoir 3 ou 4 cartes. Et t'as une collection de... Enfin, genre la collection complète, c'est 7 cartes. Quand t'as la collection complète, t'as un badge. Et ça te donne de l'XP sur ton profil Steam. Ça sert à rien. Okay. Mais ça fait cool. Et tu peux, justement, vendre tes cartes aux enchères à d'autres personnes. Et moi, je sais que je fais plein de thunes comme ça. Au début, je l'ai fait, genre sur mes jeux préférés. J'allais gagner les badges parce que c'est cool de pouvoir l'afficher sur ton profil. Donc j'avais mon badge The Binding of Isaac et j'étais super content.
Ouais.
Mais après, en fait, j'avais plein de jeux où je me disais, les steaks. Donc en fait, je revendais mes trucs. Alors, en fait, à chaque fois, c'est 10-20 centimes.
Je pensais que c'était beaucoup moins.
Ce qui est pas mal, mine de rien. Quand tu sais, et ça va directement dans ton portefeuille Steam. Et quand tu sais que t'as plein de jeux qui sont super cool à 5 euros, après, derrière, c'est pas ultra difficile d'avoir des jeux gratos comme ça. Surtout que t'as même des cartes sur des jeux gratuits. Alors, en général, les cartes, tu les revends moins cher quand c'est des jeux gratuits.
Ouais, j'imagine.
Parce qu'il y en a plein. C'est le principe des enchères.
Ouais, l'offre et de la demande. Ouais.
Mais il y a plein de jeux comme ça où tu peux récupérer. Tu télécharges le jeu gratuitement, tu y joues quelques heures et tu peux avoir 30 centimes en vendant les cartes. Voilà.
C'est marrant. Ok. Bon, bah, c'est cool, hein, du coup, ça existe. Et ça fait combien de temps que ça existe, ce système?
Sur Steam, je sais pas du tout.
Ah, ça fait un moment, ça d'accord, c'est un moment, pas ouais. un truc, oui, ok.
Du coup, revenons à Utip.
Ouais. Alors, du coup, oui. Et du coup, pour mettre un petit peu aussi en contexte, donc, Utip a fermé. Cassim a appelé, du coup, le fondateur et a eu un peu des réponses. Donc, en gros, c'est pas non plus, la Silicon Valley Bank où on peut plus retirer son argent, etc. Dans le principe, il y a une histoire, effectivement, je vois avec quelqu'un qui l'avait mis, un problème de fournisseur, c'était l'Orgibus, failli de lâcher par son prestataire de paiement. Mm. C'est ça. En gros, Mango Pay, qui est la boîte qui s'occupe en fait de gérer les paiements pour Utip, qui fait le lien justement entre les gens qui vont recueillir l'argent que les utilisateurs leur donnent, donc entre vidéastes et entre les utilisateurs qui payent les vidéastes, qui du coup a rompu le contrat, si j'ai bien compris, c'est pour une histoire du coup de, entre guillemets, pornographie, en tout cas de nudité ou de quelque chose comme ça, qui n'allait pas du coup. Alors, ce qui moi m'a étonné du coup à la lecture de l'article, c'est que c'était vraiment genre un cas précis. Apparemment, en tout cas, ce que dit du coup le patron de Utip, c'est qu'il a fait le maximum pour régler le problème, etc. Ça me paraît quand même très très violent, un seul cas, et je me dis que surtout que ça peut arriver plein de fois, en fait, qu'il y a quelque chose qui passe la modération et puis qui ne reste pas longtemps, quelques heures. Et
d'ailleurs, j'ai pas vu la réponse de Mango Pay, je sais pas si tu les as.
Ah oui, ouais. Alors je l'ai regardé tout à l'heure, ça. Alors la réponse, c'est un peu comment on dit, la réponse de Normand, quoi. Mais
alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? En raison d'obligations de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de divulguer les raisons spécifiques de notre décision de fin au contrat. Cependant, il est important de noter que Mango Pay est une entité réglementaire qui s'engage à veiller à ce que toutes ses activités soient toujours conformes aux normes légales, réglementaires et éthiques, blablabla. Cette fin, nous avons mis en place des politiques qui interdisent ou restreignent certaines activités ou entreprises, telles que celles liées au contenu pour adultes. Ok, bon. Nous nous engageons fermement à assumer nos responsabilités en tant qu'institution financière réglementée et respecter les normes de professionnalisme et d'éthique les plus strictes dans toutes nos activités. Cette décision a été prise pour s'assurer que nos services restent conformes aux réglementations. C'est... Alors, effectivement, bah, il confirme globalement que c'est juste du contenu pour adultes qui les a fait chier et que du coup, ils ont rompu le contrat.
Ouais.
C'est ultra violent. Enfin, t'as même pas un coup de sommation.
Et c'est ça, qui est bizarre. Ouais, carrément. Alors, apparemment, du coup, ils assurent leur rôle, etc. Même le fait qu'ils vont bloquer, du coup, il y aura plus de nouveaux paiements qui pourraient être faits, du coup, pour les vidéastes, pour les influenceurs qui sont inscrits dessus à partir d'aujourd'hui. En soi, la plateforme, elle reste actuelle, elle peut toujours être accédée, et les vidéastes ou les influenceurs peuvent toujours aussi retirer l'argent. Mon GoPay a dit qu'il bloquait pas les virements, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi. Je vois Aximité qui disait devaient vouloir abandonner Utip depuis un moment. Ça laisse un peu cette impression, c'est ça qui est bizarre. Moi, je comprends pas trop. Surtout qu'apparemment, aussi, ce que disait Cassim dans son article, c'est que jusqu'au dernier moment, Mango Pay a laissé penser qu'il pouvait y avoir une solution, qu'ils pouvaient se mettre d'accord, etc. C'est étrange, je sais pas trop pourquoi, quoi, mais bon. Toujours est-il que du coup, moi, ce qui m'intéressait d'en parler aussi avec vous, c'est que on est nombreux aussi peut-être à avoir changé. Alors moi, le premier en tout cas, j'avais changé, j'étais passé justement en novembre 2021 de Tipeee à Utip. Et bon, alors c'est pas énorme de changer, d'enlever un virement, de le mettre ailleurs. Moi, je suis les gars de Game Next Door sur YouTube qui disaient passer à KissKissBankBank ou je sais plus quelle autre plateforme. Je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a toujours des solutions, des alternatives. C'est plus pour les vidéastes où effectivement, on en parlait en plus quand on était en réunion hier, le côté de Stupid Economics. Donc, c'est des gars qui sur YouTube parlent d'économie, vulgarisent un peu ça, des Français. Ils disaient que c'était 70% de leurs revenus. C'est quand même beaucoup. En plus, c'est des gars qui sont très transparents sur comment ils utilisent leur argent, etc. Et là, dès le premier coup, ils ont dit, alors on espère mais que tout sera récupéré, mais ils savent très bien qu'entre-temps, il y a forcément des gens qui avaient laissé le virement et le virement va se perdre et les gens vont pas remettre à nouveau un virement sur une nouvelle plateforme ou vont avoir la flemme, ou il y a des gens qui vont se dire, bon bah finalement, ça m'intéresse plus, ça peut remettre en question tout ça. Et eux disaient qu'ils pouvaient tenir, s'ils n'avaient pas ces financements, si j'ai bien compris, jusqu'à mi-juin, quoi. C'est vrai que ça remet toute une activité en question, quoi.
Ça remet toute une activité en question et à la limite... Eux, ils ont quand même une plateforme assez... Le fait qu'ils soient sur YouTube leur permet d'avoir aussi un impact un peu plus fort. Enfin, genre, je pense que s'ils font une vidéo en mode « Venez nous aider et revenez sur KissKissBankBank, sur Tipeee, sur Ko-fi, toutes les alternatives, ou juste faites-nous un don PayPal
ouais. »,
je pense qu'ils pourront déjà récupérer pas mal de ces 70% d'ici mi-juin. Après, il y en a qui sont... Qui vont se retrouver très rapidement dans un en précarité en fait, voire en extrême pauvreté, parce qu'il y en a pour qui c'est absolument les seuls revenus.
Ouais.
Et je voyais notamment une militante qui disait que bah elle c'était ses seuls revenus en fait. Elle est dans la merde.
Enfin bon voilà, mais je sais pas du coup si vous vous êtes concerné, si vous suiviez des gens, si vous avez vu, parce que du coup moi j'ai eu les quelques personnes que je suivais, et comme il y a un système du coup de, tu sais, de mail interne du coup qu'ils ont envoyé pour prévenir effectivement les gens qui les suivaient et qui les finançaient, je sais pas si vous avez eu des retours de gens qui sont là aussi un peu en galère justement avec la chute de Utip quoi, ou si vous d'ailleurs vous aviez aussi été concerné justement par ce changement de passer de Tipeee à YouTube. Peut-être que vous avez la flemme juste de passer à une autre plateforme.
Alors Aximilitech, Jean Massier a dit que pour la campagne de Backseat, il n'y avait pas de souci, qu'il était en train de voir avec YouTube. Ouais, il a communiqué dessus. Il a dit bah merci à tous pour votre soutien et pour vos petits messages, mais vous inquiétez pas pour moi, il est OK. Et donc il va récupérer son argent pour Backseat. Et derrière, bah, je suppose qu'il va migrer la fin de sa campagne de dons sur une autre plateforme. Donc c'est, Backseat continuera, je pense que ça ira.
Je vois quelqu'un qui demandait si c'est Utip qui bloque, mais que MongoPay est OK. Non, en fait, du coup, c'est que MongoPay s'occupait de façon des paiements. Utip s'occupait d'aucun, pas du tout de la partie paiement, justement. MongoPay était son prestataire pour s'occuper de tout ce qui était paiement, autant du côté du coup des vidéastes qui récupèrent l'argent que du côté des utilisateurs qui payaient via MongoPay les vidéastes. Donc MongoPay va faire son taf. Apparemment, en tout cas, c'est ce qu'ils affirment eux. J'ai pas l'impression de toute façon d'avoir vu de vidéastes qui s'offusquaient que c'était pas possible de retirer l'argent ou quoi.
Pour le moment, en tout cas.
Donc, bon.
Hey, merci à Aximilitech pour le Prime. C'est cool. 8 mois d'abonnement. La vache. Merci beaucoup.
Gattuz a fait un stream sauvage hier. Ah oui, c'est vrai qu'il citait d'ailleurs Gattuz comme un des principaux, du coup, qui
est
de la plateforme. Ouais, c'est ça, copain du web, Gattuz et Jean Massier. C'est vrai que Jean Massier, je m'y attendais pas quand même. C'était quoi, 250 000 euros?
Voilà, c'est...
200 000 euros. Et avec pas tant d'abonnés, c'est ça qui m'étonnait aussi, parce que du coup, quand on parlait des gars de Stupid Economics, ils ont genre, je crois, 7 000 abonnés, donc moins que Jean Massier. Sauf que eux, ils avaient aussi une technique qui était de dire aux gens, soyez très 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 nombreux à donner très très peu. Il y avait une histoire de les 1% qui donnent un euro et ça leur permettait de se financer.
Ouais.
Ce qui, je pense, a bien marché pour eux. Et du coup, Jean Massier, ça doit être à l'inverse, peut-être plus facile, entre guillemets, de transitionner du coup le nombre d'abonnés si c'est des plus gros dons d'un coup, quoi.
Et pour le coup, bah, Jean Massier, c'est aussi, en fait, comme c'est une campagne unique, c'est pas, contrairement à Stupid Economics, eux se rémunèrent avec ça. Donc ils ont besoin de quelque chose tous les mois.
Mm.
En fait, Jean Massier, t'y vas pour payer la campagne. Que tu sais, une fois par an, t'y vas, tu payes 100 balles, 200 balles, et après voilà, c'est, enfin, les dons vont être forcément plus gros, d'autant que il y a aussi justement, en parallèle de cette armée des 1 euro que tu viens de citer, et t'as aussi le merch à acheter,
c'est vrai,
du coup, je sais même pas quel est le prix.
Tu as regardé une casquette Backseat?
Allez, une casquette Backseat, ça coûte combien?
40 euros. Ah ouais, quand même, ok. Oui, bah de toute façon, c'est aussi du soutien, du coup, donc j'imagine que le prix est un peu gonflé. Mais... Je regarde pas du tout Backseat, d'ailleurs. J'avais suivi Jean Massier quand il faisait Acropolis, mais ouais. J'avoue qu'entre-temps, j'ai pas transitionné.
Mais ça fait un petit moment,
Acropolis. Oui, carrément.
Mais ouais, bah Backseat, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission politique tous les jeudis. J'avoue que je préférais la première saison, moi.
Ah ouais
parce que là, ils sont en saison 2. Et en fait, avant, il y avait des chroniqueurs fixes. Maintenant, ça tourne. Je trouve ça. Alors, c'est tout à son honneur aussi de professionnaliser beaucoup le truc. Mais je préférais le côté un peu plus intimiste de la première saison. Bon, après, puis alors, après, il y avait aussi le fait que la première saison tombait pile pendant les présidentielles.
Oui.
Donc,
ce qui marche bien, ce qui drive beaucoup de gens, j'imagine, à venir voir le truc.
Oui, oui, carrément. Donc, puis c'était aussi ultra intéressant et passionnant de se dire, sur l'élection la plus importante de notre pays, il y a plein de trucs à dire, etc. Même si, faut avouer que cette année, il y a quand même toujours pas mal de trucs à dire au niveau politique.
Ouais, non, carrément. Bah, j'imagine aussi qu'il y a peut-être eu le même effet d'ailleurs aussi avec la réforme des retraites. Le fait qu'il y ait le 49-3, etc. J'ai vu qu'il avait invité Laurent Berger, du coup patron de la CFDT, des principaux syndicats, donc j'imagine que ça attire aussi beaucoup de monde, quoi.
Oui, effectivement, la cascade, c'est, en fait, si c'est 40 euros, c'est parce que c'est 15 ou 25 euros de dons en plus de...
Oui, ce qu'on disait, du coup, c'est que c'est gonflé, du coup, pour soutenir...
Exactement.
Je pense, ouais.
Okay. Ouais, Philippe Martinez aussi était passé, donc patron de la CGT, enfin ex-patron de la CGT, non ?
Oui, c'est vrai.
Qui d'ailleurs était excellent sur le plateau de Brexit. Il était,
ah ouais ?
Ouais, il était à mourir de rire.
Ce qui est pas censé être, enfin c'est peut-être pas la raison pour laquelle il était là-bas, mais.
Non, mais il est, enfin c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit,
okay.
qui est très drôle en soi. Je suis entouré de personnes qui, soit Jean Massier ou ses chroniqueurs. Ils sont tous aussi pas mal et assez marrants, donc c'était cool de les voir ensemble. Moi je pleure avec la nouvelle loi influenceur, je ne pourrais plus voir Nabila depuis Dubaï nous vendre de la merde.
Alors elle pourra, il faut juste qu'elle se déclare au registre du commerce, je sais plus comment ça fonctionnait le système qui les évitait aux gens qui étaient même à Dubaï de quand même devoir se plier aux règles. Ah, je sais plus. En plus, c'est moi qui fais le sujet.
Ah bah bravo.
Parce que plus comme on traitait du coup plus sur l'impact des influenceurs tech, j'avoue que il y a peu d'influenceurs tech à Dubaï. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Mm-hmm. J'en connais pas. Mais
salut bonjour. Guillaume.
Salut. Moi, je pleure avec. Ah oui, c'est quoi? C'est que je voyais. Oui, Utip qui était dans la sauce. Alors oui, effectivement, c'est que c'est pas uniquement quand tout à l'heure on expliquait que MongoPay du coup avait bloqué les paiements et que du coup c'est pas uniquement ça effectivement qui a mis Utip dans la sauce et qui a fait fermer la porte dès justement le premier blocage. Il y a aussi le fait que du coup, du fait du blocage, du fait qu'ils avaient pas accès au fonds, ils pouvaient pas non plus rembourser plusieurs choses, les dettes qu'ils avaient contractées pendant le Covid et les garanties à l'État, garantie d'État, je sais plus comment. Ouais. En tout cas, des fonds justement qui étaient obtenus auprès de l'État, mais qui devaient aussi rembourser. Donc, je pense que c'était une.
Du coup, ils se sont retrouvés en déficit de paiement.
C'est
donc...
ça. Pas possible de payer, donc on ferme les portes, quoi.
Voilà, voilà.
Alors, d'ailleurs, si on peut finir un petit peu sur ce sujet, Cassim précisait que, et en tout cas dans l'interview qu'il a fait justement avec le patron, que logiquement, Utip ne va pas fermer, le site ne va pas fermer, et il y a peut-être, mais alors avec des gros guillemets, possibilité que le site soit racheté.
Repreneur.
Est-ce que ça sera racheté par par Tipeee? Est-ce que ça sera racheté par KissKissBankBank? Est-ce que ça sera récupéré justement par quelqu'un du même domaine? Apparemment, ils avaient l'air de dire aussi que dès que les discussions mentionnaient un rachat et dès que ça arrivait au problème de MongoPay qui voulait plus du tout bosser avec Utip, ça a posé un peu problème quand même. Donc bon. On verra bien si ça va survivre, quoi. En attendant, dans tous les cas, j'ai vu aucun vidéaste qui disait serrer les doigts, croiser les doigts,
serrer les fesses. Croiser les dents.
Mais, donc ouais, je pense que tout le monde a bien compris qu'il fallait quitter le bateau, quoi. Mais ce qui va peut-être, encore une fois, quand on disait de remettre en question, de mettre un peu en danger, justement, les vidéastes, peut-être qu'aussi ça va les pousser à diversifier aussi leurs sources de paiement ou leurs sources, en tout cas, de dons, quoi. Peut-être sur plusieurs plateformes différentes ou de, je sais pas.
En fait, c'est déjà souvent le cas. Utip est justement une alternative pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier au niveau de la publicité.
Ouais.
Mais c'est vrai que proposer un Utip, un Patreon, un Tipeee, ça commence à faire beaucoup et ça oblige à être dépendant de plein de plateformes et à avoir de la logistique pour gérer tout ça. Quoi.
Ouais. Ouais,
c'est sûr. Apple va se proposer pour le racheter, mais les virements seront au minimum de 1000 euros.
Ça va faire cher. Ok. Moi, je vous propose de regarder autre chose, si ça vous va.
Écoute. Tout sur cette tortue.
Alors, pas la tortue. On peut commencer par la tortue. Bon, d'abord, je vais vous montrer au moins le titre de l'article. J'ai envie de vous parler de Scribble Diffusion. Alors, peut-être que ça va sonner justement quelques cloches à certaines personnes. Ça va vous dire peut-être quelque chose, ne serait-ce que dans le nom. Scribble, vous comprenez à peu près qu'on parle de dessin. Si vous avez joué un peu à Scribble.io pendant le confinement, vous voyez de quoi je parle. Et puis, Diffusion, ça fait peut-être écho à quelque chose que vous connaissez, qui est Stable Diffusion, qui est un système un peu comme Midjourney, du coup, qui permet de générer des images par une IA en faisant des prompts, donc en mettant des phrases, en demandant justement de produire quelque chose sur la base de ta propre idée. Et ça va sur la base d'une base de données de plein d'images, sur un algorithme qui a été entraîné sur plein de demandes différentes ou de demandes similaires, en tout cas, qui va essayer de générer quelque chose proche de ce que vous lui demandez. Alors, Stable Diffusion, c'est connu notamment parce que c'est le système Midjourney, mais qui utilise votre PC et la puissance de votre PC, justement, pour gérer ça. Vous pouvez aussi payer, je crois, si je dis pas de bêtises, Stable Diffusion, où il y a des serveurs pour pouvoir générer à la place de votre PC. Mais en tout cas, c'est un système un peu comme Midjourney, mais moins accessible que Midjourney. Là, moi, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est très accessible, que je vous propose même qu'on va qu'on va pouvoir tester ensemble, si vous voulez, qui s'appelle, du coup, Scribble Diffusion, qui fait la même chose, mais plutôt que vous mettiez des prompts, plutôt que vous mettiez des mots, vous allez pouvoir dessiner comme... Est-ce que c'est Ulrich qui a dessiné le chat? Je suis pas sûr.
Oui,
ok, d'accord.
Et pour le coup, en fait, justement, je vois Aximilitech qui demande, c'est comme Nvidia Canvas.
Je connais pas du tout.
Donc en fait, c'est Nvidia Canvas, c'est effectivement un système un petit peu dans le même genre qui reconnaît un dessin et qui va en faire, j'allais dire une œuvre d'art, mais en tout cas une image beaucoup plus complète, comme ce qu'on peut voir à l'image actuellement.
Okay.
La seule différence, c'est que Nvidia Canvas ne se base que sur le dessin, si je dis pas de bêtises. Là où t'as ici, t'as non seulement le dessin, mais t'as en plus un prompt, donc comme Midjourney, comme Stable Diffusion, et donc voilà, on le voit ici, on a à la fois le dessin et à côté, enfin en dessous, la petite phrase "The sun setting behind the mountains" qui explique ce qui se passe à l'image, et, enfin sur le dessin, et qui permet d'ajouter éventuellement du détail et un petit peu plus d'informations.
Donc on va pouvoir tester un petit dessin. Alors est-ce que tu as une idée du coup d'un truc qu'on peut dessiner?
Alors, très bonne question.
J'ai des toutes petites compétences de dessin, mais avec une souris, ça va être un peu compliqué. Mais
alors, je te fais confiance sur le dessin, ce n'est pas du tout mon domaine.
Oh no, oh no,
oh no. Okay. Dans quoi tu t'es lancé?
J'aurais pas dû dire ça du tout en plus. Ok, bon.
Fais-nous une licorne sur la plage.
Une licorne sur la plage. Alors, on va essayer de dessiner un cheval. Si mon cheval ressemble à un âne, c'est normal. Oh, c'est pire. Ok, alors, on va faire ça rapide, hein. C'est juste que, voilà. Je mettrai pas toutes mes compétences en dessin dans ce premier dessin. Hop. On a vraiment l'impression d'être un enfant, par contre, quand tu utilises ce système-là, quoi.
Puis alors, avec une souris.
Alors, licorne, et tu m'as dit sur la plage?
Ouais.
Ok, très bien. On va mettre ça comme ça. Alors, vous verrez que la façon dont on trace les traits, où est-ce qu'on les trace, si on ferme les traits, ça peut avoir de l'impact aussi sur l'image qui est générée, puisqu'il y a différents systèmes, du coup, qui permettent d'interpréter justement le dessin et d'en faire quelque chose derrière qui s'approche de ce qu'on demande, notamment qui détecte les contours, qui détecte les points essentiels. En fonction des petits traits qu'on peut laisser plus ou moins, ça peut avoir beaucoup d'impact. Alors, moi, j'ai l'impression que ma licorne sur la plage, elle est bien, là. Peut-être que tu veux de la mer, de l'eau.
Moi, je la trouve pas mal, ouais.
Ok.
Ouais, c'est...
Je sais pas si la perspective va être comprise en revanche si je mets de la mer ici. Je voulais la mettre en arrière-plan, mais on va tester.
On verra.
Alors j'avoue que moi, quand j'ai fait mes tests, j'ai toujours tapé quelque chose. Je sais pas si ça produit quelque chose. Tape pas. Non, on n'est pas. C'est pas possible. Pas. Ouais, d'accord. Alors, licorne en anglais.
Unicorn.
Ok. Bon alors, je vais pas vous montrer ça parce que ça va être raté. Oh.
Déjà, il y a la licorne.
Alors déjà, il y a la licorne. Donc j'ai mis licorne et ça a quand même marché. Donc il a au moins réussi à comprendre à peu près ce dont je parlais. Avec une licorne qui est déjà beaucoup mieux dessinée que la mienne, ça m'impressionne assez. J'ai l'impression qu'il a reconnu la forme générale et qu'il a réussi du coup à mettre une image sur les contours. Donc unicorn. Running pony.
Ouais, running on the beach.
On the beach. Et attendons s'il va réussir justement à comprendre, par exemple, derrière, plutôt que ça soit une chaîne de montagne, mais de comprendre que ça soit la mer derrière, avec la perspective. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il va m'interpréter ça d'une façon différente? On va bien voir. Ça prend un peu plus de temps. Ah! Alors c'est intéressant.
Alors il a pas reconnu le fait que c'était de la mer.
Il l'a plutôt mis d'ailleurs dans l'eau au final, c'est oui. L'inverse. Il a pris ça de l'autre côté. Moi, je voyais plus le côté face à la mer. Mais ça rend assez bien. Alors moi, ce qui m'impressionne du coup, c'est que ça interprète quand même le contour, mais que ça interprète pas non plus à 100%, je veux dire, de façon trop sérieuse le contour. Par exemple, on voit la qualité de mon dessin qui reste assez imprécise à ce niveau-là. Et il a pas non plus suivi ça à 100%.
Non, mais il y a une petite bosse quand même au niveau du cou. Et ça, il l'a gardé.
C'est une licorne bossue. Ouais.
Alors, par contre, la queue, rien à voir.
Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'heureusement que j'ai mis des petits traits au bout de la queue et qu'il a compris et que c'est pour ça qu'il l'a colorié de cette manière-là. C'était mon idée d'artiste, en tout cas, au départ.
Tout à fait. D'ailleurs, à droite, c'est l'image que tu avais dans la tête au moment où t'as dessiné.
Ah, ça, c'est...
C'était ouais. Exactement ça.
Exactement la même.
Les oreilles sont des cornes aussi. je sais pas si c'est des cornes ou si c'est le décor de derrière.
Ouais, j'avoue.
C'est normal si je ne vois aucune différence entre à gauche et à droite. It's the same picture.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si vous avez des propositions ou si vous voulez qu'on teste de dessiner quelque chose, si vous voulez essayer de casser le système, parce que là, justement, on peut prendre ces exemples si vous voulez. On peut peut-être en faire un en plus. J'avais envie de tester aussi. De montrer un petit peu aussi comment ça fonctionnait. J'avais fait un test en fait de mon côté. J'avais mis, on va faire clear. J'avais mis un bonhomme comme ça. J'avais mis un bonhomme avec une barbe. Encore, ne vous moquez pas de mes capacités en dessin. Bouche.
Père Noël.
Alors, pas le Père Noël, mais je vais faire un personnage un peu divin, entre guillemets. Et justement, je vais mettre un personnage avec une barbe et on va voir justement quelle image, quelle iconographie justement il va utiliser en fait pour remplir. Ben justement, quand j'ai testé de mon côté, moi j'ai tapé. Alors j'avais mis, je crois, un bonhomme comme ça. Avec une main. Et j'avais mis God say hello. Quelque chose comme ça. Quand on met God, par exemple, on peut comprendre qu'on va imaginer, du coup, un personnage classique, un peu comme dans les films, avec barbe blanche, image blanche, grande toge, blanc, pourquoi pas, parce que c'est là aussi la majorité des représentations qu'on a. Mais on peut imaginer aussi une toute autre représentation, beaucoup plus orthodoxe. On peut imaginer, voilà. Alors, pas forcément pas forcément d'idée de base, moi, quand je dessine ça, je dessine juste un personnage un petit peu comme dans le cliché qu'on peut avoir justement du personnage un peu divin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'on demande justement à l'IA de nous dire, selon toi, si je dis God, à quoi est-ce que ça ressemble, il va mettre. Ça me fait un truc différent justement de la dernière fois. Moi, quand j'avais tapé God, je m'attendais en fait à avoir un personnage justement très chrétien, très comme dans les films justement avec longue barbe blanche, etc., une auréole autour. Et ça m'avait mis justement un dieu mais orthodoxe dans l'iconographie à ce niveau-là. Et je m'étais demandé pourquoi. Peut-être que c'était parce que la majorité justement de la base de données sur laquelle il se basait avait été entraînée. On en parlera tout à l'heure, mais la base de données est assez récente. Je crois qu'elle a que 3 semaines, quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc en fait.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Peut-être que les échantillons sur lesquels ils se basent sont assez limités en fait, ou ont été basés plus sur, je sais pas, par exemple des images d'iconographie orthodoxe, des choses comme ça. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on met God. J'ai pas précisé, j'ai juste mis un personnage avec une barbe. Et là, ça nous met plutôt une sorte de dieu hindou. Mmh. En tout cas, j'ai l'impression de personnage hindou qui se rapproche un peu plus.
Alors, par contre, la main.
Alors là, c'est plus une main, effectivement. Il me l'a mis en...
Très approximatif.
C'est un pendentif, quelque chose comme ça. Une écharpe, ouais. Je sais pas.
Mais ouais, c'est marrant.
Non, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que effectivement, sur des mots un peu polysémiques, des mots qui vont avoir plusieurs sens, c'est là où on peut voir que, comme n'importe quelle IA, mais c'est la même chose pour Midjourney ou pour d'autres, ça va se baser du coup sur la base de données, mais ça va aussi faire une sorte de... ça va interpréter au plus simple, quoi, à ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus courant, ce que... C'est aussi les biais qu'on peut retrouver dans ces bases de données-là. Si on demande quelque chose, on va avoir ce que tout le monde demande, par exemple. Saying hello.
Ah non, t'as pas de gomme.
Ah non, oui, tu voulais dire pour la main. Tu peux peut-être mettre waving, je me demande.
Ah ouais, pas mal.
Ouais, c'est de... Là encore aussi, c'est que du coup, un des systèmes qui est utilisé, parce qu'en gros, du coup, c'est à la fin Stable Diffusion qui permet de... Spider-Man sur la tour Eiffel, faut qu'on essaye ça.
C'est basé sur Stable Diffusion ?
C'est basé sur Stable Diffusion, ça utilise okay. bien Stable Diffusion, c'est pour ça du coup que ça s'appelle Scribble Diffusion. Mais entre-temps, on y est presque, parce que c'est relié à la main quand même un tout petit peu. Oh, mais ouais. Là, c'est une statue par contre, c'est différent. Donc ça utilise bien Stable Diffusion.
Et est-ce qu'avec... Genre, le même dessin, le même prompt, tu peux avoir quelque chose de différent.
Intéressant, j'ai pas testé, j'avoue. Fin cinquième doigt à la main. Ah, c'est possible, par contre, c'est vrai. Oula, ah ouais.
Pourquoi il a des lunettes de soleil d'un
coup ? Non, c'est pas. Il a interprété le dessin avec des lunettes de soleil. Alors, on va essayer, effectivement, de lui rajouter un pouce. Le problème, c'est qu'encore une fois, et c'est ce que je voulais expliquer, c'est que avant de demander à Stable Diffusion, entre le dessin et entre le prompt qu'on met ici, il utilise d'autres systèmes qui sont précisés du coup justement dans l'article qu'on expliquait. La base de données en gros qui n'a que 3 semaines et qui justement, ou la base de données d'images en tout cas sur laquelle elle est basée, c'est ControlNet. Mais il y a d'autres systèmes et notamment un système qui s'appelle Cani qui détecte les bordures et qui détecte du coup aussi si un tracé est fermé, s'il l'est pas. Alors par exemple, si on prend la main, le fait qu'on ait rajouté un doigt là comme ça, je me demande s'il va aussi pas l'interpréter comme quelque chose de différent et qu'il va chercher quelque chose qui a 4 doigts ou une forme de fourche, et peut-être, j'en sais rien, une protubérance à côté, quoi, tu vois, pas forcément une main. On peut tenter, mais je pense que le système est pas encore assez entraîné, et comme c'est assez récent, il est pas encore assez entraîné, peut-être pour passer outre les erreurs des gens, justement.
Ah! Ça se rapproche un peu plus.
Un peu plus, peut-être, ouais. Alors, on peut essayer, du coup, d'effacer et de faire une vraie main fermée, et de voir si cette fois-ci, il la prend comme une main. C'est horrible, vraiment, je suis désolé pour mon niveau de dessin. J'ai dû faire une manche. Si là, c'est pas pris comme un bras. C'est
pas mal.
Je ne peux rien faire de mieux.
Quand même.
on va pas lui faire de barbe cette fois-ci.
En vrai, au Pictionary, ça passe, hein.
C'est vrai? Ok. Tu me rassures, hein, franchement, parce que j'avais l'impression vraiment que c'était mieux lors de mes tests d'hier quand j'ai vu l'article, quoi. Ok, on va lui faire une tête comme ça. Et même, on va essayer de tester. Je vais pas lui faire de bouche. J'imagine qu'il va lui interpréter une bouche. Un peu comme Midjourney, ce que peut faire Midjourney aussi. Alors, on va bien voir. Et un autre système aussi, du coup, en plus de Cani, je crois qu'il y a un système, alors je ne me souviens plus du nom. Ah, bah alors du coup, il nous fait une autre déité, mais il y a une main.
Il y a une main.
Et donc, ça marche bien. Un autre système, du coup, qui était aussi, ça permettait, en fait, de détecter des points essentiels. Et apparemment, les mains, notamment. Qui est un système qui détecte généralement, en fait, des formes qui vont être un peu plus communes. Alors, effectivement, là, voilà. Est-ce que c'est mon niveau de dessin? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas du tout. Il arrive quand même, en tout cas, à comprendre qu'elle est reliée à son corps. Mmh. Il met, effectivement, une sorte de manche. Bon, j'ai l'impression quand même que ça marche un peu. Mais en tout cas, c'est ce que disait Ulrich dans l'article, c'est que c'était... Ouais, c'est ça. OpenPose, qui est le modèle de détection rapide de points clés et qui peut extraire des éléments précis comme la position des mains. Bon, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas à 100% au point. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est là encore, soit dans ce modèle-là ou soit avec le cheval, c'est le à quel point il arrive à faire une bonne balance entre les contours que toi tu lui donnes et ce qui est plus utile de s'en détacher pour réussir à faire quelque chose qui ressemble aussi à ce que toi tu veux faire. Notamment, tu vois, au niveau du visage, le visage est beaucoup moins diagonal, on va dire, que ce que j'ai dessiné moi justement sur le côté droit. Il a réussi à en faire quelque chose de plus réaliste. Et pourtant, par contre, la main, en revanche, il a gardé la même forme. Mais au niveau du visage, il s'est dit bon, là, je m'éloigne un petit peu, je vais faire quelque chose qui ressemble moins. Mais parce que j'imagine que c'est ce que la personne qui vient de dessiner veut un peu plus que ce que je produise à la fin, quoi. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est assez efficace, quoi.
Je note que pour les cheveux de ton personnage, il les a compris comme une couronne.
Oui, c'est vrai. Mais alors peut-être que du coup, comme j'ai fait des cheveux courts et comme j'ai parlé de God, tu vois, qu'il a cherché justement une déité ou un truc comme ça qui s'en rapprochait plus avec des cheveux courts, avec cette forme-là. Effectivement, ça ressemble un peu plus du coup à des choses qui existent. Alors que j'ai pas d'exemple de représentation. Divine avec des cheveux courts, quoi.
Mais du coup, j'ai l'impression que avec cet outil, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose qui soit correct que ce qu'on peut avoir avec Midjourney ou même Dali ou d'autres IA génératifs comme ça, parce qu'au final, ils se basent tellement sur ton dessin. À moins d'avoir de très bons skills en dessin et une tablette graphique, ça devient vite difficile.
Ah bah j'imagine, je pense qu'en tout cas c'est moins fait probablement pour produire des images que par exemple comme ce que nous on a pu faire d'utiliser justement une journée pour illustrer un sujet et le mettre par exemple en image d'article. Là j'imagine, en tout cas Ulrich l'a fait effectivement pour le sujet, donc ça avait du sens justement de mettre la photo là ici, mais pour quelqu'un qui veut produire en tout cas une image un peu professionnel, j'imagine qu'il n'utiliserait pas ce système-là, à moins qu'il soit un peu plus perfectionné et plutôt Midjourney à l'inverse. Ça laisse plus de liberté, en tout cas, j'ai l'impression, à la personne du coup qui utilise l'outil. Ça respecte un peu plus ce qu'il demande de base, tandis que la prompt, si vraiment Midjourney respectait exactement ce qu'on lui demandait et qu'il prenait pas ses libertés, ça serait peut-être quelque chose de similaire, j'imagine. Ouais, il y a peut-être cet équilibre entre.
Par contre, sur la tortue, je trouve ça assez impressionnant.
Oui, c'est vrai.
À la fois le dessin de Ulrich qui est pas mal et les résultats qui sont plutôt cool.
Tu penses c'est Ulrich qui l'a fait celui-là? Ah ouais. Parce que c'est chaud, moi, je trouve, c'est vraiment bien fait. la petite main, je veux pas douter de sa capacité. Je me suis demandé si c'était pas un exemple quand moi je l'avais lu justement, parce que la petite patte est vraiment bien faite. Non, mais c'est assez impressionnant, c'est vrai, quoi.
Salut Newt.
Bon, alors du coup, chose promise, chose due, on m'a dit Spider-Man sur la Tour Eiffel, je termine ça.
Vas-y.
Mais alors, pour ma défense, je suis arrivé à Paris depuis 2 mois. C'est une mauvaise défense, puisque tout le monde sait, même un Américain, à quoi ressemble la Tour Eiffel. Mais alors là. Écoute, je vais faire pas vraiment Spider-Man. Hein.
Ouais.
On va faire un personnage qui est accroché à la Tour Eiffel. Est-ce qu'il va réussir à comprendre ce que je suis en train de dire? Je suis pas sûr. Est-ce que tu vois une autre manière de réussir à faire plus de comprendre? Ah là là.
Il y a Gibus qui dit qu'il a fait 3 essais et que aucun intéressant, ni même s'en approchant.
Tout est question d'angle aussi.
Pour chance.
Parce que là, du coup, moi, je suis parti du principe de, je l'ai montré en entier. Peut-être que si j'avais fait une tour Eiffel déjà un peu plus ressemblante ou qui respecte un peu plus les détails les plus représentatifs de la tour Eiffel, plus un personnage qui peut-être ressemble plus à une araignée, je sais pas, quelque chose comme ça.
Moi, je me dis surtout que si la tour Eiffel fait 300 mètres, ton Spider-Man, il est quand même bien grand.
Dans une version alternative sur la Terre 300 je ne sais pas combien, il y a peut-être Spider-Man immense. Eiffel, un petit problème, non?
En anglais, E2F, E-I-L.
E-I-L. Préparez-vous à screener, hein, ça sera votre prochain fond d'écran.
Oh,
ah ouais. Alors c'est marrant du coup parce qu'il l'a bien interprété comme une tour, mais
et il a pas chopé l'araignée du tout là.
C'est... Non. Alors c'est parce que c'est peut-être pas assez reconnaissable. On parlait d'Open Pose tout à l'heure qui détectait les formes générales. Peut-être qu'il a pas assez du coup reconnu la forme humaine entre guillemets.
Mais c'est parce que t'as pas mis Spider-Man. Je pense que
j'ai pas mis Spider-Man autant pour moi. Ouais. Alors on peut essayer. Ah.
Y a de l'idée.
On s'en rapproche un petit peu plus quand même. Alors je sais pas du coup si Langibus toi dans tes tests t'avais quand même réussi à avoir un personnage bleu et rouge quoi, mais. Là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il l'a mis en position latérale de sécurité, en tout cas, dans ma photo. Mais il a fait beaucoup d'efforts quand même pour réussir à donner quelque chose qui ressemble un tout petit peu, malgré le peu que je lui ai donné.
Il y a de l'idée.
Il y a de l'idée, en vrai. Moi, ça m'impressionne. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on aura Spider-Man sur la Tour Eiffel. Je vous laisse quand même essayer de votre côté, si vous voulez, au niveau de la Tour Eiffel, parce que vous aurez probablement une Tour Eiffel plus... Attends, j'ai quand même un petit doute. Je veux juste voir qu'est-ce que j'ai raté. Enfin,
c'est pas les résultats de Lord Gibus.
J'ai eu un bout de la tour bleue et rouge. Ah, on peut envoyer. Ah, du coup, c'est la tour qui est devenue Spider-Man. Under Eiffel Tower. Alors oui, là, du coup, je pense que c'est parce que t'as dit under. Ah, mais du coup, tu l'as bien mis aussi, parce que effectivement, c'est l'angle qu'on a en tête des photos prises en dessous. Ah, ouais, oui. Ouais, c'est pas loin. C'est juste que du coup, il a fait l'inverse, quoi. Ah, ou alors, c'est qu'il l'a pris de l'autre angle. Et on a un peu le même problème que ce qu'on avait vu tout à l'heure avec, du coup, la licorne sur la mer. Où du coup, on pensait que ça allait être pris de l'angle face à la mer. Mais lui, il l'a peut-être pris de l'inverse d'une vue voilà, au-dessus, tu vois.
Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on a une Spider Tour Eiffel plus qu'un Spider-Man.
Oui, oui, dans tous les cas, je suis bien d'accord. Et puis la tour n'a rien à voir avec le petit dessin qui a été dessiné, quoi. Bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, donc c'est assez intéressant de voir à quel point, justement, ça reste assez efficace. Et même en étant très mauvais, elle arrive quand même à s'émanciper un petit peu de votre dessin et à réussir à en faire des trucs assez... Le dessin du Vricotti était bien, là, sur le vaisseau, ça m'avait assez impressionné. Même sur les montagnes, en plus, les effets d'ombre n'étaient pas trop trop mauvais, et malgré le fait qu'elles... C'est les pyramides d'Égypte un petit peu. En soi, du coup, de loin, ça fait peut-être un tout petit peu l'illusion, quoi.
Mais tu vois, je trouve que... Justement, on parlait de Nvidia Canvas tout à l'heure.
Ouais.
De mémoire, les résultats étaient quand même meilleurs.
Ah ouais ?
Mais, alors, par contre, c'était des résultats plus simples. C'est-à-dire que si tu voulais Spider-Man, il fallait quand même savoir dessiner Spider-Man.
Ouais, d'accord.
Vu que t'as pas de prompt derrière pour lui.
C'est
pour
plus adressé au pro, quoi. Ouais. Ouais. Ok, d'accord.
Mais même, enfin, genre juste un. Si tu cherches Nvidia Canvas.
Ouais.
C'est
un libre accès, du coup.
Il faut avoir un GPU Nvidia, je crois. Donc fais Nvidia Canvas for Android. Et t'auras les articles qu'on a pu écrire dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Non, on n'avait pas fait des trucs. Je me rappelle que Ulrich s'était amusé aussi. Google Canvas, oui, il faisait aussi.
2018, hein.
Non, c'est pas ça.
Mais c'était Ulrich encore qui avait mis ses compétences en dessin.
Hein. Ulrich adore dessiner. non, c'était pas ça.
Micromax Canvas, non.
Non.
J'ai pas l'impression. Alors, si, mais
bah, c'est, le Android,
c'est
alors,
ce que j'ai vu. C'est que je crois qu'il y a une vidéo, en fait, c'est pour ça.
Ah, peut-être.
Alors, est-ce que le son, par contre, est partagé? Ah, et du coup, c'est que vous aviez pris un graphiste.
Ouais, voilà.
Ah oui, d'accord. Donc, ça utilisait là encore un peu les contours et ça remplissait. Ça a l'air de beaucoup plus respecter aussi, justement, ce que la personne dessine, puisque je vois que les contours sont encore plus nets qu'on avait tout à l'heure. Ah ouais, avec les effets de lumière et d'ombre et de perspective avec les objets plus ou moins au premier plan, au second plan. Ça a l'air assez puissant aussi, ouais.
Que le résultat rend mieux, en fait.
Oui. Peut-être que c'est entraîné aussi un peu plus longtemps, que l'algorithme est aussi un peu plus mature, entre guillemets.
Parce que, oh.
C'est vrai que là, c'est... Ah ouais, arrête.
En fait, t'as pas le côté... erreur. Le résultat fait pas erreur, fait pas glitch.
Mm.
Contrairement à Stable... Scribble Diffusion.
Et là, je suis d'accord que, mais surtout sur les effets de lumière, en plus, parce que là, on a une photo du coup qui est générée, qui est une sorte de crépuscule ou d'aube un petit peu, et ça pourrait être vite rendre faux, quoi. Surtout avec différents éléments qui sont rajoutés petit à petit. Ça, très très fort justement d'adapter ça comme ça.
Après, tu peux faire que des paysages, par contre, je crois. Hein. Tu vois, t'as les outils à droite, donc c'est assez limité.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais, effectivement, avec différentes saisons, différents... Ah oui, oui, ok. Je voyais une sorte de petite icône aussi, vestige, je sais pas si c'était dédié à ça aussi, un peu des paysages, avec des éléments qui sont aussi créés par la main de l'homme, je veux dire, ça serait intéressant de voir aussi comment ils rendent ça. Mais ok, ça a l'air assez puissant, quoi. Je voulais voir s'ils rajoutaient aussi d'autres éléments. Ah, et peut-être qu'ils peuvent changer. Ah oui, d'accord, c'est qu'ensuite, derrière... Oui, c'est ça, c'est que ça reste aussi des outils un peu comme une journée qui peut être utilisée pour s'inspirer, pour être d'abord une première source d'inspiration. Tu vas reprendre des éléments, et toi, en tant que graphiste, tu vas... Voilà. Parce que là aussi... Mais ça reste quand même assez puissant, en tout cas, de se dire que tu peux l'utiliser et que tu peux prendre l'image texto et vraiment ensuite enlever un élément, le remplacer par quelque chose d'autre. Ça élimine quand même beaucoup d'étapes, en tout cas, de production. Oui. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Bon, on n'en est pas encore là, du coup, peut-être pour Scribble Diffusion, mais en tout cas, c'est peut-être aussi plus accessible, Scribble Diffusion, si vous n'êtes pas graphiste. Donc, en tout cas, c'est assez marrant à faire. Mais voilà.
En tout cas, à garder à l'œil.
Ouais, et puis c'est vrai, alors du coup, on peut aussi le tester si vous voulez, mais alors là, on pourra peut-être pas partager le son, mais je vous propose aussi de le tester du coup chez vous, si vous voulez. Il y a un service aussi qui est fait par la même boîte, si j'ai bien compris, qui s'appelle Refusion. Ça fait à peu près le même système, c'est juste que du coup, ça produit une image en spectrogramme, spectral, des images audio, spectrogramme, c'est ça ? Je dis pas de bêtises. Je sais qu'il expliquait, oui, c'est ça, en spectrogramme. Donc, en gros, comme on peut générer un son et produire une image à partir d'un son, avec les différentes... on peut, par exemple, faire ça pour un son pour voir s'il a été modifié. Et ça génère, en fait, différentes glitches ou pas, justement, dans l'image. Donc là, ça fait l'inverse. C'est que ça produit une image, ça fait la même chose avec Stable Diffusion, et qui, ensuite, l'image est interprétée par un algorithme, s'il expliquait, mais qui permet, justement, ensuite, de générer un son. Et logiquement, là, il donne quelques exemples. Donc, c'est Bossa Nova, oui, de Distorted Guitar, Emotional Disco. Moi, j'avais essayé Sad Techno. Plot Twist, on est très loin de la techno. Mais ça marche, en vrai, ça fait quand même ça. Et on voit, justement, dans la partie gauche, là, alors, elle est un peu coupée, du coup, sur le stream, mais on voit, justement, la partie, le spectrogramme, justement, qui est interprété et qui, si on fait lecture, comme ça, oui, si ça lance un petit peu, je sais pas si ça s'entend, enfin, bon... ça interprète justement l'image et ça en fait quelque chose qui est pas mauvais, qui est pas non plus au point de, enfin aussi bon que Midjourney, on lui demande quelque chose, il génère quelque chose, et ça peut être. Là, on va pas générer une musique directement à partir juste de la prompt. En revanche, ça reste quand même assez bon pour générer des choses qui sont assez différentes de ce que j'ai vu. Donc c'est assez cool. Donc voilà, un nouveau jouet un petit peu justement pour essayer des choses. Je vous propose de lire l'article de toute façon justement d'Ulrich qui mentionne aussi d'autres outils, notamment Amazing AI qui marche sur Mac.
C'est fou en ce moment, vraiment tous les outils d'intelligence artificielle qui sont mis en avant. Enfin, je pense que c'est surtout grâce à ChatGPT donc à OpenAI qui a mis vraiment ça sur le devant de la scène, parce que en fait tous ces trucs là, ça existe depuis des années. C'est pas récent, mais c'est juste que il y a ChatGPT qui a vraiment mis les projecteurs sur l'intelligence artificielle. Tout le monde s'est dit waouh, ça va remplacer nos boulots et ça va révolutionner nos vies, ce qui je pense est vrai.
Ouais, il y a moyen à terme, oui.
Personnel. Mais du coup, bah voilà, on a tous ces trucs là qui sont là maintenant et qui existaient certainement déjà avant. Je sais pas si celui-là il est vieux ou pas.
Oui, parce que ça a l'air d'être aussi bien développé, pas développé à la vie. Ah, c'est le truc aussi, oui, c'est un peu, ça a ouvert la porte, j'imagine, aussi à l'expérimentation. C'est un peu ce qu'on a vu en plus avec Google Bard. Google aussi avait un système d'IA conversationnel dans les cartons depuis un moment, il en parlait, mais qui attendait vraiment que ça soit vraiment assez mature pour pouvoir le mettre ensuite, après, justement, auprès des consommateurs et qu'il n'y ait pas trop de risques. Et des dérives qu'on a pu voir justement avec ChatGPT, avec Bing, version de ChatGPT, commence à insulter tout le monde, ou à l'inverse, commence à sortir des secrets de Microsoft. Donc, il y a un peu ce truc de, ah bah les gens s'en foutent si ça fonctionne pas à 100%, mais si au moins ils peuvent tester, ah bah peut-être que du coup on peut sortir notre service, quoi. J'ai l'impression que ça a ouvert un peu ce truc-là.
Après, il y a quand même, des éléments un peu, il y a un historique, parce que Microsoft avait lancé une IA sur Twitter. Très mauvaise idée.
Oui, je me souviens qu'il était devenu nazi là très très rapidement.
Exactement, en moins de 24 heures, c'est devenu est devenu ultra raciste. C'est Cinet, pas France, mais Cinet, CNET US qui a alors, je sais pas s'ils ont viré leur journaliste, mais en tout cas ils ont certains articles qui ont été écrits par ChatGPT. Pas sûr que ce soit vraiment le mouvement global.
Oui, non. Bah alors à terme, c'est sûr que si ça devient extrêmement bon pour faire de la recommandation de produits, il y aura certaines choses où j'imagine que qu'on fera plus nous et on se concentrera sur autre chose, mais
on verra après si on devient plus technicien et que la partie rédactionnelle est gérée en partie par une IA, pourquoi pas hein, en vrai c'est à partir de... en fait faut voir parce que il y en a beaucoup qui voient ça comme les IA vont remplacer nos métiers et ils vont le faire totalement à notre place. Alors moi je suis pas du tout dans cette idée là. Je pense que c'est clairement pas ça. C'est juste que ça va être des outils très forts qui vont nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Donc effectivement peut-être de faire plus de choses avec moins de monde. Il y aura peut-être à un moment des coupures dans les effectifs de postes qui risquent d'être redondants, parce que si les entreprises n'arrivent pas à réinventer aussi leur façon de faire et ce qu'ils font et avec qui. Mais de toute façon, pour moi, l'IA ne reste que ça, un outil, et t'as forcément besoin de quelqu'un pour le contrôler, en fait. C'est un peu comme si, pour creuser un trou, avant, t'avais 10 gars avec une pelle.
Ouais.
Maintenant, t'as un tractopelle, mais il faut un mec qui sache comment fonctionne le tractopelle.
Oui, c'est ça. C'est un peu le... Alors, sans partir dans les... Ah, merci beaucoup, Pistou. Vous avez suivi, du coup.
Et Pandator,
ouais, on n'avait pas vu, ouais. Mais après, oui, c'est un peu, sans rentrer dans le détail des théories économiques, mais ce qu'on appelle destruction créatrice, quoi. Ça détruit des métiers avec une innovation. La voiture a détruit des métiers, des gens qui s'occupaient, je sais pas, de ramasser des crottes de chevaux sur le chemin, etc., d'autres choses comme ça. Et ça en crée d'autres. Alors, est-ce que ça en crée autant? Est-ce que ça crée des métiers qui sont différents? Il faut se respécialiser, il faut se former à d'autres métiers. Ça, c'est pas d'un claquement de doigts et il y a des générations qui sont forcément sacrifiées. Mais oui, forcément, du coup, c'est une évolution, quoi. Mais ça, je voyais Axie Militech qui disait c'est le monde, c'est là, je vais partir sur des sujets plus approfondis. Bah, effectivement, ça fait ça aussi, c'est que ça permet aussi de se spécialiser ou en tout cas de mettre du temps sur d'autres choses. Je prends l'exemple, notamment si on parle du journalisme et des IA justement qui remplacent entre guillemets les journalistes, ça remplace pas forcément une enquête ou des choses comme ça. Non. Par contre, ça peut remplacer effectivement un résumé par exemple de résultats trimestriels. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Bloomberg le fait déjà depuis un petit moment, utilise des IA pour prendre les résultats trimestriels qui sont basés sur les stocks, enfin sur la bourse. Et en faire du coup des articles un peu à la ChatGPT, mais depuis vraiment quelques années, bien avant ChatGPT, pour justement faire des articles très courts, très simples, mais pas redondants, parce que justement c'était des choses que les journalistes du coup de Bloomberg déjà n'aimaient pas trop faire, quoi, parce que ça pouvait être un peu répétitif. Et ben là, j'imagine que ces journalistes du coup prennent le temps d'être sur d'autres sujets, du coup. Donc ça peut aussi avoir des intérêts, quoi.
Ouais, non, mais carrément. Mais il y a plein de choses qui sont automatiques comme ça. Et par exemple, pour parler de quelque chose qui est encore plus proche que nous, c'est les numériques, oui. Donc notre concurrent le plus direct aujourd'hui, qui a un système d'intelligence artificielle sur son site, et en fait pas tous, mais ils ont des guides d'achat automatiques, basés sur les produits qu'ils ont testés, les notes, etc. Et donc tu trouves ça, et si tu vas sur leur Twitter, tu peux voir par exemple souvent tel produit a intégré notre guide d'achat, etc. En fait, c'est tout un truc automatique qui est une espèce d'intelligence artificielle qui crée leur guide d'achat comme ça. Alors, ouais, pas tous, ils ont des guides d'achat aussi plus étoffés,
ouais,
mais ils ont cette partie-là. Mais en vrai, tu vois, typiquement, enfin, j'estime pas que le métier d'un journaliste, c'est forcément d'écrire. Et c'est effectivement d'enquêter, de faire plein de choses autour de ça. Nous, notre métier, la base de notre métier, la principale, c'est de tester des produits et de donner notre ressenti et de comparer les produits, de les mettre dans des situations où ils vont être en défaut pour voir quelles sont les limites, etc.
Oui, parce qu'à la fin, dans tous les cas, le produit, il est utilisé par des humains. Donc, dans tous les cas, il y a aussi besoin d'humains pour ça. Voilà.
Bon, mais finalement, est-ce que juste tester les produits et dire, ChatGPT, fais-moi le test du Pixel 7 Pro en te basant sur les valeurs des tests techniques que j'ai récupéré, une note de 9 sur 10 et le fait que je trouve l'écran lumineux, je trouve que l'autonomie est bof, et voilà. Et derrière, le texte qui est écrit de lui-même, en vrai, pourquoi pas ?
Non, mais oui, pourquoi pas, ça ferait gagner du temps.
Ça ferait gagner beaucoup de temps, et la valeur du test, elle n'est pas dans sa rédaction, elle est dans tout ce qui a été fait avant, et donc ça peut faire gagner beaucoup de temps.
Dans les ingrédients, c'est comme un thermomix auquel tu lui donnes des ingrédients, et il va te faire le truc tout seul, mais quelque part, les ingrédients, c'est toi qui les as mis, quoi. Après, derrière, tu repasses peut-être pour goûter et rajouter du... sucre, j'en sais rien.
Je pense aussi, oui, parce que ne serait-ce que pour le plaisir de lecture, c'est toujours plus sympa d'avoir une plume. Après, moi, ça fait bientôt 8 ans que je suis chez Frandroid. Si je dis à ChatGPT de lire tous mes articles et d'écrire avec ma plume un test du Pixel, je suis sûr qu'il le fait.
Ouais, mais.
D'ailleurs, Bruno Le Maire a fait son.
Oui, j'ai vu.
A testé ChatGPT hier pour la première fois, il était waouh, on peut faire des discours économiques qui ont un sens en moins de 5 minutes alors qu'avant ça me prenait 4 heures.
Ouais, à garder en tête que Bruno Le Maire est aussi un peu en campagne pour essayer justement de gagner des voix dans le nouveau parti post-Macron. Donc il fait aussi sa pub à faire ça, j'imagine, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Tu soulèves un bon point, AximiliTech, effectivement, c'est la rémunération et la reconnaissance des sources de ChatGPT et Autria.
Mentionné d'ailleurs Bruno Le Maire, si je ne dis pas de bêtises, dans l'article.
Ah ouais.
Ouais, qui disait qu'il y avait en tout cas un souci et qu'il fallait justement prendre ça en compte.
Ouais. C'est qu'effectivement, là, moi, je donne l'exemple d'une base de données qui a été faite par nous, par moi. C'est lis mes articles et fais quelque chose comme je l'écrirais. Mais c'est un gros problème aujourd'hui sur notamment les images générées par IA. Parce que on sait pas très bien sur quoi elles sont entraînées, et c'est souvent, enfin, et a priori c'est pas forcément des images libres de droit, pas toujours en tout cas. Je crois que c'est Dali qui s'était fait épingler pour ça.
Oui, je crois que j'ai vu
ça. Donc ça pose une grosse question, et il va falloir régler ce problème là assez rapidement. Mais après il y a aussi la question de la suite, parce que si on remplace ce qu'on fait par de l'IA, la prochaine version de l'IA, elle se nourrira de quoi?
Les versions qui ont été produites par l'IA.
C'est ça, ça va juste être de l'auto-amélioration de l'IA elle-même.
Ouais. On en revient à ce que tu disais, c'est qu'il faut de l'humain derrière aussi pour faire fonctionner ça, quoi. Sinon, on stagnera. C'est tout le délire de dire je veux un paysage peint comme Van Gogh. Au final, il y a un nombre limité de peintures de Van Gogh, donc au bout d'un moment, ces paysages se recomprendront beaucoup, quoi. Donc forcément, il y aura besoin de nouveaux artistes, de nouveaux. Ça les fera pas disparaître. En revanche, ça écrèmera peut-être aussi le nombre de.
Et puis, justement, il faudra aussi. En fait, c'est un peu comme tout, c'est qu'à un moment, il faut se renouveler. Il faut renouveler son style, il faut renouveler des. Mais en fait. Pas forcément que juste à cause des outils. À quand une IA qui se coupera l'oreille? un peu comme la presse, quand Internet est arrivé, la presse a dû se renouveler pour travailler différemment, proposer d'autres formats, etc. Et là, les artistes vont aussi se renouveler, proposer des trucs qui vont être différents de ce que peuvent sortir des IA comme une journée. On va voir rapidement les limites de ces intelligences artificielles, et ça va donner des idées créatrices à d'autres artistes, voire créer des artistes qui utiliseront l'intelligence artificielle. Tu vois, comme tout à l'heure on regardait le truc avec Nvidia. En fait, le mec a utilisé une intelligence artificielle pour se faire un décor, et derrière il le passe sur Photoshop et il continue à la main. Donc peut-être que justement ça pourrait être utilisé par des artistes pour se donner des idées, pour faire une partie de leur dessin et après continuer eux-mêmes et créer quelque chose qui ne pourrait pas être créé avec l'IA et aller plus loin que...
Et ça l'est déjà, en plus. Moi, je me souviens que quand ça avait commencé à sortir, justement, les mid-journée, etc., les premiers services qui étaient très accessibles, la majorité des prompts, enfin, des productions les plus intéressantes, souvent, c'était des artistes qu'ils testaient. Alors maintenant, il y a tout un mouvement dans les artistes anti, justement, IA, qui essaie justement de se dire, on n'a pas envie de nourrir ça. Mais pour autant, il y en a beaucoup qui s'en servent, pour des bases, pour du brainstorming, quoi, du coup. Donc, c'est déjà le cas, en plus.
Oui, mais totalement. Après, mais le problème, en fait, c'est que, on leur a pas demandé leur avis.
Ouais, et c'est bien le problème. Ouais.
On a pris leurs œuvres sur Tumblr, sur ce genre de plateforme, et on a nourri l'IA, et en fait, ils étaient pas cons.
Ouais, carrément.
C'est le plus gros problème.
Et je voyais Lordibus qui disait un truc intéressant, et c'est vrai, c'est la première fois que cette création, on parlait de trucs qui détruit des métiers mais qui en crée d'autres à côté, mais que c'est les métiers de haute valeur, entre guillemets, des métiers de longues études, des métiers un peu où on se dit la production, on met la construction dans notre pays, mais la conception derrière, elle reste quand même, par exemple dans les pays du Nord, comme beaucoup de trucs où c'est le design qui reste justement, par exemple aux États-Unis, et puis le reste qui va être mis, je sais rien, à Taïwan, des choses comme ça. Là, c'est vrai que du coup, directement, c'est les personnes qui sont chargées du design, entre guillemets. En tout cas, certaines, comme on disait, du coup, toutes ne peuvent pas disparaître parce qu'il faut bien une source créatrice quelque part qui nourrit aussi la machine. Mais c'est vrai que c'est la première fois, c'est bon à noter.
Et en fait, on va subir une ère nouvelle comme on a connu l'industrialisation à une époque qui a remplacé toute la main-d'œuvre par des chaînes de production ou des robots, etc.
Ouais.
Maintenant, le nombre d'humains qui participent à monter une voiture est beaucoup plus faible qu'avant.
Ouais,
t'as quand même besoin d'énormément de personnes aussi sur la ligne de production pour maintenir le truc. Et ça a fait monter en compétences. Et là, c'est en train d'arriver sur tous les travails intellectuels qui ont une certaine redondance et qui justement peuvent être remplacés.
Ouais, carrément. Ok, donc voilà. Je sais plus sur quoi on s'était basé au départ. si, parce que justement on parlait du coup
Inscribable. Les fusions, l'IA, on est parti là-dessus. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu veux passer très rapidement sur une actu sans s'attarder?
On peut, ouais, si tu veux. Je voulais peut-être juste parler, en fait, d'un truc que j'avais vu. Alors, c'est vrai que, du coup, on a publié, du coup, ce matin, justement, un sujet sur les écouteurs AirPods, du coup, qui réfléchit à ajouter un écran au boîtier. Alors, ça va peut-être vous dire quelque chose, puisque ça existe un peu. Je suis en train de demander, en fait, parce que j'avais vu passer, justement, un modèle du coup de JBL comme sur la photo. Du coup, s'il est pris en photo, c'est qu'il est sorti pour le consommateur ou c'était juste un prototype?
Non,
c'était vraiment.
Ça a été testé.
Ouais, d'accord, ok. Ouais, je me suis demandé. Et je sais pas du tout, toi, tu avais lu du coup le test, tu savais comment ça s'était passé, si c'était si utile que ça ou pas?
Tu peux y aller, le lien est là, les écouteurs. Ah, non, descends.
Ah, c'est les JBL Tour Pro 2. Ok, d'accord.
Je vous parie vers 20h, plein d'images de Trump avec le panneau numéro de prisonnier, mais celui-ci, pas des fakes.
Ah oui, apparemment, ouais, on aura peut-être la première photo, c'est vrai.
Alors
c'est intéressant.
Nombreux contrôles sur le boîtier.
Ouais, ce que j'allais dire, ouais. Oh, c'est étonnant. Bah, ça sera intéressant de voir. On est dans usage et application.
L'écran tactile.
Voilà. Ah, voilà. Que la particularité des JBL réside bel et bien dans leur boîtier de charge muni d'un écran tactile de 1,45 pouces. Par défaut, cet écran reste éteint. Ah oui, d'accord, okay. Oui, forcément, parce que c'est vrai que sinon... Il va s'allumer si vous le touchez ou si vous appuyez sur le bouton. On le déverrouille par glissement de doigt. Oui, d'accord, ok. Et le boîtier va donner accès à certaines fonctions, comme le statut d'appairage des écouteurs. Ah, ce qui en soi paraît assez logique, du coup. Ce qui peut être assez pratique, justement, à éviter de sortir son téléphone, à se dire « Oh non, ça a sauté la connexion, je sais pas. »
Après, quelle est la différence entre sortir son téléphone et sortir son boîtier?
Il y en a un qui... Oui. Mmh. Oui.
En fait, t'as quand même le geste à faire.
Dans tous les cas. C'est que leur niveau de batterie ou l'heure. Bon, alors ça, un peu overkill, quoi. Le niveau de batterie, ok, mais par exemple, sur beaucoup de modèles de boîtiers, justement, d'écouteurs, aujourd'hui, on a une diode, deux diodes, trois diodes, et même une seule, justement, suffit largement à donner l'information principale. Et même quand on met beaucoup trop de diodes pour avoir 14 000 niveaux différents de batterie, ce qui nous intéresse le plus, c'est que ça soit sous les 20 ou les 10% pour aller le recharger. Est-ce que le niveau exact de batterie est vraiment utile?
Surtout que maintenant, avec les systèmes d'appairage, ton téléphone, il le sait, il l'affiche. Contrôle de lecture, gestion du volume, commande du son ambiant, égaliseur, compte à rebours.
Ah, c'est peut-être compte à rebours quand on s'endort, d'activer justement un système qui permet d'éteindre automatiquement la connexion.
Lampe torche.
Non, mais là, il savait plus quoi ajouter, c'est pas possible.
Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais a priori, bah, écoute, en tout cas, c'est quelque chose qui est réfléchi par Apple.
C'est ça, parce que du coup, c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement dessus, mais en gros, du coup, ça se base sur un brevet qui a été, alors, pas déposé, ma vie hardisque. C'est pas déposé, c'est que la demande de brevet a été faite, mais le brevet n'est pas encore déposé, si je dis pas de bêtises.
En fait, c'est juste que tu déposes pas un brevet. Alors, il a été... En fait, tu fais une demande de dépôt de brevet,
ouais.
Et après, c'est donc là, en l'occurrence, l'USPTO, le bureau officiel des marques, non, le bureau des brevets et marques officielles.
Je ne sais pas trop, je vais mettre ça. Hop.
Qui dépose, lui, le brevet. Et, en fait, tu fais une demande de
dépôt. Ok, bon. Donc là encore, il faut prendre ça aussi avec des pincettes, et c'est aussi pour ça qu'on précise, c'est que ça reste du coup une demande de dépôt, mais pas forcément justement un brevet validé.
Après, si ça a été publié, c'est qu'a priori ça a été déposé,
oui.
Mais c'est pas Apple qui l'a déposé, mais c'est surtout, en fait, qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que des brevets, il y en a des centaines, des milliers qui sont déposés tous les ans.
Apple le premier,
et
en plus.
Apple le premier, ils font beaucoup de choses, et ça veut pas dire que ça arrivera un jour.
On a notamment couvert récemment, j'ai fait un article récemment sur des écrans tactiles, des écrans pliants et des systèmes de fermeture automatique d'écrans pliants qui, s'ils tombaient par terre, allaient se refermer automatiquement pour éviter la casse. S'il y avait des iPads ou des téléphones ou des ordinateurs pliants, là encore, il y avait des dizaines et des dizaines de brevets qui étaient basés sur des écrans pliants. Apple n'a toujours pas sorti de produit avec des écrans pliants, donc encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Mais c'est intéressant de voir aussi, parce que ce qui est intéressant avec ces articles-là, avec ces brevets-là, c'est que ça donne aussi une direction un petit peu, et on voit qu'il y a beaucoup de constructeurs en fait qui se suivent un petit peu. On voit que Apple, en fait, quelque part, même s'ils vont pas sortir forcément des produits exactement comme ce que les autres sortent, s'il y en a déjà qui essayent à des prototypes, qui vont quand même les commercialiser, etc., Apple va pas forcément le sortir. Ils vont faire à façon Apple, ils vont attendre de sortir vraiment une version qui leur correspond et qui est très différente des autres, mais pour autant ils suivent quand même un peu la tendance, ils veulent pas prendre de retard, et donc ils déposent quand même ces petits brevets. Donc c'est intéressant de voir aussi les intérêts un peu justement derrière le rideau, quoi, des constructeurs.
Des coques airbag.
Ah, j'avais vu passer ça. Ah, c'est marrant. Ah oui, donc littéralement.
C'est vraiment un airbag. C'est non. Vu que t'en parlais, ça m'a fait penser à ça.
Vidéo qui date.
Ouais, ça.
Un petit peu, oui, c'est vrai. Forcément, avec un boîtier un peu plus grand, il pourra intégrer une dynamo manuelle qui permettra de le recharger via une manivelle.
Et pour donner un exemple de brevet qui a été déposé mais qui n'est jamais arrivé, l'airbag pour smartphone d'Amazon, celui-là,
non.
On l'a jamais vu.
Incroyable. Alors attends, du coup, c'est vraiment un airbag là? C'est qu'il y a, ça sort. Est-ce que c'est vraiment coussins, ou c'est qu'il y a un système aussi d'air qui est projeté pour essayer d'éviter le choc? Ils disent airjet sur Incroyable.
Bon, après ça, c'est un brevet. Oui. C'est pas arrivé. Voilà.
Mais Amazon, remarque, nous avait déjà surpris avec des téléphones avec je sais plus combien de capteurs optiques dans les premiers téléphones qu'ils avaient essayé. Ouais, si je dis pas de bêtises, ils avaient fait un format Fire Phone, quelque chose comme ça. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Avec un nombre de capteurs photo. Je crois que c'était aussi des capteurs qui permettaient de faire de la réalité augmentée ou de
détecter ils avaient fait de la 3D.
Oui, c'était ça.
T'avais un écran 3D dessus, exact.
Mais alors là, pour le coup, c'est ça vieux. Avait plus la tête d'un concept prototype, et pourtant, ils l'avaient quand même commercialisé, quoi. Donc,
c'était les téléphones de l'époque. Il y en a eu plusieurs. Il y avait HTC qui avait fait le Evo 3D. C'était ça. Et en fait, à l'époque, tu voyais en fait, l'écran était en 3D.
Ah oui, mais j'en avais entendu parler.
Du coup, tu filmais en 3D et après, tu pouvais avoir un truc en 3D à l'écran.
Mais alors, est-ce que c'est du coup la 3D, un peu le système de la 3DS là, qui fait mal aux yeux au bout d'un moment?
Exactement. C'était peut-être pas le Evo 3D.
On l'a vu aussi IES d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, il y avait un écran qui était comme ça aussi.
LG Optimus 3D. Allez voir chez les numériques ce qu'ils en disaient. Oula, 2 sur 5 à l'époque.
Les photos.
Ouais. HTC posait le... Voilà. C'est.
Pas encore disponible en France.
Donc c'est bien de l'écran 3D sans stéréo. Sans lunettes.
Oui, il le précise. Petite Nintendo 3DS.
HTC Evo 3D. T'avais l'Optimus 3D de LG. Donc c'était des écrans dégueulasse. Et à chaque fois, t'avais deux capteurs photo, alors que à l'époque, t'en avais qu'un sur les téléphones.
Oui, c'était les premières fois, mais sans forcément qu'on ait l'intérêt qu'on ait aujourd'hui d'avoir plusieurs capteurs, quoi.
Exactement. Alors, que dit le chat avant qu'on y aille?
Ouais, on va regarder un petit peu. C'est une carte. Le gaz s'échappe lors. Ah oui, d'accord. C'est pour l'airbag de Amazon. Ou même plus récemment, Acer qui revient avec les écrans 3D. Mais je me demande, c'est ça, c'est qu'il y avait un modèle aussi IS, du coup, d'écran 3D, mais c'était un écran d'ordinateur cette fois-ci. Alors eux, le montrage, je sais plus du coup si c'est Acer ou pas. Là, on peut regarder, mais c'était un modèle où du coup, ils l'utilisaient notamment pour de la conception 3D. Il montrait que ça permettait du coup un peu de se déplacer, oui, okay, de voir. Alors dans le principe, oui, si c'est compatible, oui. Ça avait l'air aussi de dire que c'est
vraiment un cas d'usage très particulier.
Et ça coûte probablement assez cher justement à intégrer. Ça coûte probablement beaucoup en batterie aussi à le faire tourner. Surtout que là, c'était montré sur des modèles d'ordinateurs portables. Donc c'est la jurisprudence Nintendo 3DS, quoi. Ça fait très mal aux yeux au bout d'un moment. Enfin, mal à la tête, mal aux yeux.
Et Titouan, par exemple, ne voit pas la 3D. C'est stéréoscopique.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Il disait sur la 3DS, j'ai jamais vu la 3D.
Ah, c'est marrant. Ok.
Et c'est, ouais, pas, c'est pas le seul à avoir ce souci.
Oui, donc en plus, c'est ça, c'est que c'est pas très inclusif ou accessible en tout cas. Ouais, c'est vraiment une niche de niche, quoi. Ok, très bien.
Bon. Ah, merci Zemozocrac pour le follow.
Ah oui.
Est-ce qu'on regarde qui est connecté sur Twitch pour faire un raid pour envoyer ses 284 spectateurs chez quelqu'un?
Écoute, on peut regarder. Alors j'avoue que...
Qui est connecté, chez qui vous avez envie d'aller?
Si vous avez quelqu'un à nous recommander, que vous aimez bien. Pourquoi on est en double là derrière?
Parce que c'est cette image-là.
Ah oui, ok. S'il y a quelqu'un que vous voulez nous recommander... Alors... Toi t'as une idée, je sais pas du tout.
Samuel Etienne qui est disponible. On a encore envoyé du monde chez Samuel Etienne.
Ok, on va faire ça. On va continuer du coup, alors là on va s'éloigner un peu de la tech, mais vous aurez des infos quand même. Alors moi on m'avait montré une seule fois comment faire le raid, donc là je vais te redemander de me le faire.
T'as juste à venir ici et tu fais slash raid Samuel Etienne, c'est comme ça le nom de ta chaîne.
Ah oui, alors j'ai vu ce qu'il dit. Quoi?
Alors, les intergalactiques qui diffusent des films nanars actuellement ridiques.
Ah, mais
ils ont le droit?
Ouais, ce que j'allais dire, en termes de droit. Ouais.
Ou alors, il faut être Prime.
Sub-only.
Ouais, voilà, Sub-only, c'est un...
Bon, du coup, on va plutôt aller sur Samuel Etienne, ouais, comme c'est un peu plus accessible, du coup. Mais en tout cas, c'est une bonne reco, ça peut être intéressant. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça doit être marrant aussi de partager une séance nanar avec des gens.
Eh bien, en tout cas, bonne journée à tout le monde. Passez le bonjour à Samuel de notre part. Nous, on vous dit à demain, déjà, pour la prochaine matinale. Demain, c'est qui? Mercredi, c'est Geoffroy Grégoire, je crois.
Ok.
Et vous allez voir, il y a plein de lives qui sont prévus cette semaine.
Merci beaucoup du coup d'avoir été là. Bah oui, à la prochaine. Puis bah bonne journée à vous. Bonne fin de café.
Merci et à plus tard.